accent d'Europe, Laurent Berthaud.
C'est live and let die.
Bonjour à tous. Deux jours après l'attaque terroriste au cœur de Londres, on connaît désormais l'identité de l'assaillant, mais aussi celle des victimes, londoniens ou touristes venus du monde entier. Et parmi elles, un policier en faction devant l'une des entrées du Parlement, abattu de plusieurs coups de couteau, alors qu'il tentait d'interpeller l'assaillant. Keith Palmer, 48 ans, dans la police depuis 15 ans, n'était pas armé. Une information qui relance le débat sur le port d'armes des policiers, Marie Billon.
Effectivement, les policiers qui gardaient le portail n'étaient pas armés. Une large entrée réservée aux voitures qui est considérée comme un point vulnérable selon le député et ancien ministre Ian Duncan Smith. C'est lui qui tire la sonnette d'alarme et se demande pourquoi ceux qui gardent l'entrée du Parlement, qu'on savait être une cible potentielle, n'étaient pas armés. Même après le meurtre de la députée Jo Cox, tuée à l'arme blanche dans sa circonscription, quand la sécurité du Parlement a été révisée, l'option de poster des policiers armés aux entrées n'a pas été retenu. Alors certes, non loin de là, se tiennent bien depuis plusieurs mois deux policiers lourdement armés, mais leur mission à eux est de protéger les cavaliers qui se tiennent immobiles devant le Horse Guards Parade, des soldats d'apparat considérés comme une cible. L'unité à laquelle appartenait le policier décédé, comme tous ceux qui se trouvent à Westminster, est le commandement pour la protection du Parlement et du corps diplomatique. Certains de ces agents sont armés, d'autres non. Comme dans toutes les forces britanniques, le port d'armes est un choix de chaque officier. Par défaut, les agents ne sont donc pas armés. À Londres, par exemple, seuls 2200 le sont. Mercredi, c'est l'un de ces policiers armés de Westminster qui aurait abattu l'assaillant. La première ministre Theresa May a fait savoir que la sécurité des lieux allait être revue, mais il ne faut pas oublier le poids de la culture. Ici, le bobby sympathique non armé reste important au nom de la police de proximité. On appelle ça la police par consentement, mais le choc provoqué par cette attaque pourrait influencer les débats.
Les ados islandais reviennent de loin. Il y a près de 20 ans, près de la moitié des 15-16 ans buvaient régulièrement de l'alcool, un tiers d'entre eux fumaient des cigarettes et 17% consommaient du cannabis. En quelques années, le pays a réussi à faire baisser considérablement cette toxicomanie chez les jeunes, fruit d'un programme volontariste mis en place en 1997. C'est un reportage de Jérémy Richard.
Avez-vous déjà été en état d'ébriété, bu de l'alcool ou essayé de fumer une cigarette ? À ces questions régulièrement posées via un questionnaire anonyme aux élèves islandais depuis plus de deux décennies, Christian, bientôt 15 ans, répond sans détour.
Jamais rien fait de tout ça.
Son truc à lui, c'est plutôt le football. Avec sa longue chevelure blonde et son catogan façon Zlatan Ibrahimovic, son idole et buteur de Manchester United, le jeune Islandais tape le ballon 5 fois par semaine sur le terrain synthétique de Breitholt, son quartier au sud de Reykjavik, des moments qu'il apprécie.
Je suis vraiment content de jouer au foot avec mes amis et de m'entraîner dur.
Objectif, pérenniser sa présence en équipe nationale qu'il vient tout juste de rejoindre avec les moins de 16 ans, mais chaque chose en son temps.
School first.
Priorité à l'école, car c'est mieux d'être bon à l'école. Et ensuite, je me consacre au football.
Pourtant, en 1998, les ados islandais étaient à la dérive. 4 jeunes de 15 et 16 ans sur 10 déclaraient avoir bu au cours du mois précédent. Près d'un sur 4 fumaient et 17% reconnaissaient avoir consommé du cannabis. Inacceptable pour les Islandais et un déclic, selon le professeur en psychologie, Harvey Milkman.
Quiconque marchant dans les rues de Reykjavik aurait eu peur les vendredis ou samedis soirs à cette époque. Les adolescents étaient ivres, ils étaient désagréables, bruyants et tapageurs. Ça semblait même dangereux. Donc toute la société islandaise s'est mobilisée, pas seulement les parents.
Chaque année, depuis 1998, le Centre islandais pour la recherche et l'analyse sociale interroge de 12 à 20 000 élèves de 10 à 16 ans. Les données collectées sont ensuite passées au crible par des scientifiques. Jon Sigfusson est le directeur du centre.
Ces données ont permis de distinguer plusieurs facteurs de prévention.
Par exemple, avoir de bonnes relations avec les parents, de bénéficier de leur soutien, de leur attention et de leur réconfort. Ces données ont aussi permis d'identifier des facteurs de risque. Par exemple, traîner tard le soir en ville avec ses amis. Ces enfants étaient plus susceptibles de commencer à consommer de l'alcool et du tabac.
Sous son impulsion, le gouvernement lance alors, dès 1998, un projet labellisé Youth in Iceland pour stopper la tendance avec toute une série de mesures. D'abord, il instaure un couvre-feu, toujours en vigueur aujourd'hui, qui interdit aux mineurs de 13 à 16 ans d'être dehors après 22 heures, avec la permission de minuit du 1er mai au 1er septembre. Un changement radical mais salvateur pour Johannes Gunnlaugsson, le père de Christian.
Quand j'étais plus jeune, on était plus souvent dans les aires de jeu ou dehors. Avant, on explorait plus les choses par nous-mêmes, dehors, et on trouvait à s'occuper seul. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus organisé.
La majorité civile passe de 16 à 18 ans, la vente de tabac est interdite en dessous de cet âge, et l'achat d'alcool avant 20 ans est illégal. La publicité pour le tabac est interdite, les cigarettes vendues en magasin ne sont plus visibles en rayon et leur prix est désormais parmi les plus élevés d'Europe, plus de 9 euros le paquet en moyenne. Et comme dans la majorité des pays nordiques, l'alcool est vendu uniquement dans des magasins d'État et taxé à plus de 80%. Une pinte de bière en Islande coûte plus de 10 euros. Autre mesure du gouvernement, la pratique d'un sport ou d'une activité extrascolaire est encouragée grâce à une politique incitative. Une enveloppe de 35 000 couronnes, soit près de 300 euros par enfant, est distribuée chaque année dans la capitale islandaise. Et Johannes s'en félicite.
Quand je regarde ce qui se passe dans d'autres pays, ici nous avons ce système unique qui permet à tous les enfants d'être impliqués dans un sport ou autre, d'être actifs. Ça fait beaucoup pour la société, c'est vraiment une bonne chose.
À l'âge où nombre d'adolescents s'enferment dans leur chambre, s'isolent, communiquent difficilement, Christian, lui, partage des activités quotidiennes avec ses parents pour le plus grand bonheur de sa mère, Ausdis.
On fait plus de choses avec nos enfants qu'avant. Je pense que c'est amusant de partager des choses, surtout à l'âge où ils apprécient ça. Aller au cinéma ou jouer au bowling, on aime faire ça de temps en temps.
En 2016, le pourcentage des jeunes déclarant avoir bu au cours du mois précédent a chuté à 5%. Les fumeurs réguliers sont seulement 3% et 7% avouent avoir consommé du cannabis. L'amélioration suit une tendance européenne selon l'ESPAD, mais il n'y a qu'en Islande qu'elle est aussi forte. Le psychologue américain Harvey Milkman, qui participe au projet Youth in Iceland depuis ses prémices, nous explique pourquoi.
C'est parce qu'il y a une réelle volonté générale en Islande de changer les choses. Je crois que c'est un modèle qui n'existe nulle part ailleurs. Dans chaque communauté, les parents sont impliqués, les enseignants, les coachs sportifs, les politiques. Tout le monde collabore pour remédier à ce problème et il semble que les résultats sont sans équivoque. Ce projet est une réussite totale.
Depuis 2006, le modèle islandais s'exporte. 35 municipalités à travers 17 pays, majoritairement européens, ont commencé à mettre en place des programmes de prévention inspirés de cette expérience.
Сега е времето да се интересуваш. Как и кой ще управлява страната? Нали не искаш да ти решава съдбата? Не могат да пишат, нито да четат.
C'est lui qui met en musique le programme électoral de la droite bulgare au sens propre, Svetlio Vitkov, candidat aux élections législatives de ce 26 mars. Explication de Damien Vodenicharov.
Tout commence par la promesse d'écouter le meilleur programme politique. Le programme politique en question fait rimer lutte contre les fraudes électorales, diminution de la criminalité, hausse du budget de la défense, baisse de la TVA ou lutte contre la corruption. Virer à droite, c'est le titre de cette chanson de hip-hop dans laquelle les noms des leaders de la droite sont cités. Et sur le clip, on voit même l'ancien ministre de la Santé publique accompagner le flow et les rimes des deux artistes. À l'origine de ce titre, le parti La Voix du Peuple, fondé en 2013 par Svetlo Vitkov, chanteur du groupe punk irrévérencieux Hippodin. Vitkov s'est lancé dans la politique en 2011 pour se porter candidat à la présidentielle. Loin du ton sérieux de la concurrence, Vitkov cultive alors une image anti-establishment et tape volontiers sur la classe politique. Mais l'irrévérence n'attire pas les électeurs. Après des résultats marginaux à plusieurs scrutins, il présente un programme beaucoup plus classique et noue des alliances avec des partis qui ont une chance réelle d'obtenir des sièges. En signant ce titre hip-hop, Witkoff et compagnie renouent aussi avec une certaine tradition, c'est d'afficher des artistes sur les listes électorales ou même de leur donner un portefeuille gouvernemental. Le poste de ministre de la Culture leur est généralement réservé.
Rotterdam, où il n'y a pas des putains, où il n'y a pas des marins, où il y a des chiens perdus et des enfants des rues, où il n'y a pas des marchands, où il n'y a pas des chalands, où il y a des vieux chevaux qui brident avec la mort, où il y a des...
C'est l'un des pays fondateurs de l'Europe dont on fête cette semaine le 60e anniversaire. Le traité de Rome était signé le 25 mars 1957. Principale porte d'entrée commerciale en Europe, les Pays-Bas sont aujourd'hui dans le top 5 des exportateurs mondiaux. Leur situation géographique l'explique et les échanges ont été facilités grâce à une Union européenne sans douanes ni frontières. Avec un atout de taille, le port de Rotterdam, premier port européen au cœur des échanges, le reportage de Domiti Piron.
Depuis le Speedo, un bateau de plaisance qui fait le tour de Rotterdam, on aperçoit les immeubles modernes, les portiques de chargement, des conteneurs à perte de vue et des manufactures gigantesques. Ricardo est notre guide à bord.
D'ici jusqu'à la mer, le port s'étend sur 25 km. Sur cet écran, on peut voir tous les bateaux. Nous, nous sommes là, sur ce petit point rouge. Et les petits triangles, ce sont les autres bateaux. Ces gros bateaux-là peuvent transporter 5000 tonnes de marchandises. Donc ils vont beaucoup plus lentement que nous, même s'ils sont beaucoup plus puissants. Ils naviguent de l'Allemagne jusqu'à Rotterdam pour transporter les conteneurs et les marchandises.
They're sailing from Germany to Rotterdam to transport the containers and other goods.
De retour d'Allemagne, justement, Alex passe quelques jours à Rotterdam avant de repartir sur son bateau de marchandises.
Moi, je suis allé partout en Europe, de Rotterdam à Amsterdam, jusqu'à Berlin en Allemagne, Stuttgart, Düsseldorf, Cologne, Francfort, Basel en Suisse, mais aussi en Autriche et jusqu'en Bulgarie.
Ce Néerlandais de 23 ans ne changerait de travail pour rien au monde.
Mon père était capitaine et quand j'étais plus jeune, il m'a dit de venir travailler avec lui parce que je n'avais pas de bonnes notes à l'école. J'avais 15 ans et au début, je ne pensais qu'à gagner de l'argent. Puis en fait, je me suis dit que c'était vraiment un super travail. Je passe une, deux ou trois semaines sur le bateau et après, j'ai autant de semaines libres. Donc, si tu réfléchis bien, la moitié de l'année, tu es en vacances, mais tu es payé.
Sur un porte-conteneur, il faut tout faire, explique-t-il. L'amarrage du bateau, la peinture ou le chargement des conteneurs. Et bien qu'habitué, Alex est toujours aussi impressionné par l'immensité du port de Rotterdam.
Les bateaux sur lesquels je travaille mesurent 86 mètres de long, 11 mètres 40 de large. Pour un porte-conteneur fluvial, c'est normal. Mais ici, à Rotterdam, tu vois des bateaux de mer qui font 200, 300 mètres. Et là, tu te dis, oh mon Dieu.
Durant la Seconde Guerre mondiale, la ville et son port ont été entièrement détruits par les Allemands. En quelques décennies, la réduction des barrières douanières et commerciales ont fait de Rotterdam un exemple concret de la réussite économique de l'UE. Chaque année, 30 000 cargos arrivent par la mer du Nord et 110 000 bateaux partent du port de Rotterdam en direction du Rhin et des autres fleuves européens.
Bien sûr, ce n'est pas un port hollandais, c'est un port européen.
Victor Schoenmaker est le directeur du département stratégie économique du port de Rotterdam, un port dont le développement n'est pas seulement dû à sa position géographique et à l'ouverture du marché européen.
L'aménagement du port en lui-même est évidemment un atout. Il y a un accès direct aux flux maritimes. Ici, vous n'avez pas à naviguer jusqu'à un port intérieur, comme à Anvers ou Hambourg. Vous pouvez directement mouiller votre navire qui arrive de la mer du Nord, et c'est très pratique.
Dans la première partie du port, les plus grands navires peuvent ainsi décharger directement leur cargaison dans des wagons, des camions et des navires plus petits qui partent vers d'autres ports européens.
Le flux de marchandises que vous voyez ici est très diversifié. Tout ce qu'on peut transporter par bateau en mer peut se trouver ici. C'est un port très complet.
Un port destiné aussi aux pétroliers et méthaniers.
In that package, of course, the oil and especially the oil products.
Dans cet ensemble, il y a du pétrole et des produits dérivés du pétrole. La raffinerie du port occupe une importante part de notre activité. La décision de construire ce complexe pétrolier ici, dans le port, avec un accès direct par des canaux pour les bateaux, avec les plus gros réservoirs imaginables, a évidemment permis un développement du port plus important.
Au cœur de l'économie européenne, le port de Rotterdam emploie directement et indirectement 180 000 personnes. Un port et une ville ouverte sur l'Europe et le monde. C'est pourtant ici qu'est né le mouvement populiste et anti-mondialisation de Geert Wilders, arrivé deuxième lors des élections législatives il y a quelques semaines.
Gardez vos yeux fermés et écoutez.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Laurent.
Alors elle joue du trombone, elle chante en anglais, mais elle est bien française.
On salue aujourd'hui le retour de Laetitia Sadier avec un nouvel album remarquable, Nouvelle Pierre à un édifice pop moderne qu'elle a commencé à construire à la toute fin des années 80 quand elle s'installe à Londres avec l'anglais Tim Gain pour bientôt former le groupe Stereolab, sans nul doute l'une des formations les plus influentes de ces 30 dernières années. Stereolab, c'était ce mélange parfait entre pop et expérimentation, entre sons organiques et synthétiques, entre français et anglais. Une formule magique toujours renouvelée, y compris sur les disques que Laetitia Sadier a publiés ces dernières années en solo. Mais c'est à nouveau un jeu plus collectif qui donne vie aux chansons de Find Me, Finding You, publiées sous la nouvelle appellation Laetitia Sadier Source Ensemble, une merveille où la liberté formelle fait écho à une réflexion sur l'engagement politique.
Without a doubt, my path was a proper line.
Laetitia Sadier, extrait donc de son dernier album, la proposition musicale de la semaine de Vincent Théval. C'est Nicolas Benita qui réalisait cette dernière édition de la semaine et de la grille d'hiver, car à partir de lundi, on se retrouve en début de soirée à 17h40, temps universel. Sur internet, l'adresse d'Accent reste la même sur RFI.fr à la page émission. Dans moins d'une minute sur RFI, un nouveau journal.